Vous recherchez une formation vraiment enrichissante? Les Compagnons du Tour de France vous invitent à leur journée portes ouvertes. Avec des formateurs passionnés et des centres dans toute la France, les Compagnons du Tour de France vous proposent des parcours d'excellence dans les métiers d'art et du bâtiment pour les jeunes dès 14 ans et des formations professionnelles pour les adultes. Pour connaître toutes les dates des portes ouvertes près de chez vous, rendez-vous sur compagnonsdutourdefrance.org. Les Compagnons du Tour de France, la transmission des savoir-faire. Vous écoutez
RMC. RMC, Estelle Midi.
On a attendu dans le froid quand même, mais...
Ça c'était dur.
30
minutes.
C'est ça, exactement. Donc on a réussi à avoir le RER, il y a un peu de monde dedans, mais bon voilà, on va finir par arriver sur Paris.
Et on va parler des RER, bien sûr, avec l'annonce du jour, celle d'Emmanuel Macron qui souhaiterait lancer des RER dans 10 grandes villes de France, Bordeaux, Lille ou encore Strasbourg, pourrait donc bénéficier d'infrastructures de transport similaires à celles de Paris et sa banlieue. On va écouter tout de suite Clément Beaune, le ministre des Transports, invité d'Apolline ce matin.
D'abord, il faut préciser combien ça coûte, les tracés, les villes qui seront prêtes en priorité, qui seront soutenues aussi par l'État. On aura ces travaux avant Noël. Et puis ensuite, en début d'année, sous l'autorité de la Première Ministre, on définira des calendriers et des financements plus précis. C'est une dizaine de métropoles, le président a dit 10, donc il n'y a pas encore une fois des listes très déterminées, mais des projets sont déjà relativement mûrs. J'ai évoqué Strasbourg, vous avez mentionné Lille, il y a Bordeaux, il y a Toulouse par exemple aussi. Les transports, c'est investir dans l'avenir, et il faut le dire honnêtement à ceux qui nous écoutent, quand on lance un projet d'investissement dans les transports, ça met énormément de temps, surtout les projets les plus ambitieux. C'est pour ça que ces fameux RER métropolitains, c'est un horizon d'une décennie.
Que sait-on exactement de ce projet RER, Rémi ?
On vient de l'entendre dans les propos du ministre des Transports. Le projet est encore assez flou. En tout cas, il demande beaucoup de précision. Emmanuel Macron, hier, n'a pas donné de liste de villes ni mentionné le montant du budget. Bruno Gazot, c'est le président de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports, lui aussi découvre. Mais il donne quand même les noms de quelques villes a priori concernées. Lyon, Marseille, Strasbourg, Nantes, Lille, Toulouse. L'idée d'un RER en dehors de Paris n'est pas nouvelle d'ailleurs. En 2020 déjà, l'ancien ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, avait annoncé que 30 millions de crédits seraient débloqués du plan de relance pour financer des travaux préparatoires au déploiement de futurs réseaux de type RER. Un projet, un plan avait même été confié à la SNCF. Depuis, moi, j'ai pas eu de nouvelles. Avant lui, en mai 2019, Elisabeth Borne, l'actuelle première ministre, qui était alors ministre des Transports, avait chargé la même SNCF Réseau de plancher sur la question. Bon, effectivement, quelques projets existent. J'ai regardé ce matin.
Ça avance bien, toi.
Ouais, à Lille, Bordeaux et Strasbourg, des projets encore à l'état d'ébauche en général. J'ai vu que ce matin à Lille, on parlait d'un horizon pour les années 2030, voire 2040. À chaque fois, en tout cas, l'idée est la même. Désengorger les axes routiers comme dans les années 60, au moment de la naissance du premier RER en région parisienne. C'était sous l'impulsion du général de Gaulle. Le général qui, survolant la région parisienne avec son préfet à l'époque, aurait eu cette phrase « De l'ouvrier, mettez-moi de l'ordre dans ce bordel ». Bah, l'objectif reste le même.
S'il était en vie, je me demande ce qu'il dirait en voyant... Ouais. En voyant Paris du ciel. Alors, bonne ou mauvaise idée, c'est 10 RER dans les grandes villes de France. Je commence avec vous, Jérôme Lavrieux.
J'ai rien compris.
Bah, c'est facile, bah, vous voulez les RER à Paris,
ouais.
Bah, vous les mettez à Strasbourg, Bordeaux et Lille.
Mais on va effrayer tout le monde.
Et pourquoi ?
Bah, vu le bordel que c'est dans la plupart des RER à Paris, si vous transposez ça en province, les gens vont dire mais ça va jamais marcher.
Enfin, le RER, ça sert quand même. Enfin,
oui, bien sûr, ça marche. En province, il y a déjà les TER. C'est les transports express régionaux. Déjà, on pourrait commencer par augmenter la fréquence des TER. Parce que quand vous avez un TER qui arrive et qui passe une fois toutes les heures ou toutes les deux heures, et encore le matin et le soir, ce serait mieux d'augmenter déjà la fréquence. Quand Rémi nous dit à horizon 2030 à Lille, c'est pas possible, on est en 2023. Oui. C'est juste pour faire du marketing politique. 2030, dans 7 ans, il n'y a même pas le temps de faire un appel d'offres et de faire des enquêtes d'utilité publique. Donc on se moque du monde. 2040, 2050, 2060. Mais en attendant, il y a des problèmes d'urgence. Quand vous voyez le RER à Paris, la ligne B, qui est la ligne la plus fréquentée d'Europe.
Non, c'est la A.
La deuxième ligne la plus fréquentée du RER, pardon. Et vous avez une ligne du RER et une ligne RATP qui se rejoignent dans un seul tunnel. Faut se battre pour savoir qui des deux va faire passer son train. Toute la banlieue est et nord de Paris qui est bloquée là-dedans. C'est effrayant. Commençons déjà par débloquer de l'argent pour ça. Et en urgence, commençons par augmenter la fréquence de ce qui existe avant de dire on va faire des nouvelles lignes. Je vous rappelle quand le général de Gaulle avec le préfet de l'Ouvrier, ils ont pris leur hélicoptère il n'y avait pas de population, il n'y avait pas de densité. Maintenant, c'est construit jusque Roissy, la banlieue de Lille. J'ai fait mes études à Lille, vous allez m'expliquer où vous allez créer une voie nouvelle.
Oui.
Donc vous allez juste améliorer une voie existante. Et pour l'améliorer, vous allez donc couper pendant 5 ans les voies, les trains qui vont passer dedans. Mais vous n'allez pas détruire des zones de pavillons, etc. Voilà.
Je vois que vous êtes assez
dubitatif sur ce projet. C'est pour faire rêver, mais occupons-nous du quotidien, du concret.
Alors, c'est joli comme projet, Mathilde. Voilà, vous êtes militante écolo, donc évidemment, j'imagine que ça vous séduit, cette idée de transport en commun. Mais est-ce qu'on ferait pas mieux quand même de privilégier les transports dans les villes qui en manquent? Parce que Bordeaux, moi j'y étais encore ce week-end, en vrai, ça fonctionne très bien, hein, le tramway. Alors, aller ajouter des RER dans des grandes villes où, a priori, justement, on a moins besoin de prendre sa voiture, ça paraît assez abracadabrantesque.
Oui, moi je rejoins beaucoup Jérôme Lavrieux, dans le sens où je vis dans un petit village de 800 habitants. Pour aller au boulot le matin, je mets 2 heures si je prends le TER, à condition qu'il soit à l'heure et qu'il ne soit pas annulé. Je mets 3 quarts d'heure si j'y vais en voiture. Donc j'y vais en voiture alors même que je suis écolo, que je suis prête et que j'ai plutôt envie de prendre le TER. Donc il y a évidemment un enjeu à, en première étape, mettre plus d'argent et plus de fréquences dans les TER déjà existants. Néanmoins, moi je trouve que c'est une bonne idée. On a toujours été en retard dans les infrastructures long terme. Mais c'est une bonne idée si c'est bien fait. En effet, si c'est pour avoir des RERD à Toulouse, à Marseille et à Lyon, ça sert à rien. Si c'est bien fait et que pour une fois, la Macronie est capable de mettre un service public qui fonctionne, eh ben j'applaudirai dès demain. Mais on voit que ça fait plusieurs fois que c'est communiqué, rarement mis en œuvre. Donc je ne peux que pousser pour que ce soit mis en œuvre rapidement. Après que les TER et les trains existants soient aussi fonctionnels.
Perico Légas, est-ce que vous pensez que justement avec l'arrivée peut-être de ces RER, ça pourrait décourager les Français de prendre leur voiture, ce qui est un peu l'objectif justement d'Emmanuel Macron?
J'en ai rien à faire.
Ah bon?
Je pense que c'est une opération McKinsey.
C'est-à-dire que McKinsey est un peu sur la touche là, oui.
Non, mais on voit très bien, il faut parler d'autre chose. Donc le président de la République, qui pour l'instant était sur des sujets un peu clivants, va devenir le président qui va amener la solution des transports dans les grandes agglomérations. On est en com' pur. Alors, très bien, bien sûr. J'ai envie de dire de quoi je me mêle. Les collectivités territoriales concernées, les municipalités, les grandes villes, les régions, sont à plein temps, chacune, pour leur spécificité, sur le dossier. Il y a des endroits où on pourrait le faire, des endroits où on ne pourra pas le faire. Certains qui disent non, il vaut mieux améliorer le réseau existant, bien entendu, avant de créer.
Alors, ça va accentuer la fracture, c'est quoi? C'est une ville, c'est sûr.
À Paris, c'est 4 lignes en agglomération. Oui. Il y en aurait 2 lignes sur Marseille ou Lyon. Ça permettrait de quoi? Pour arriver à des endroits où forcément, est-ce qu'il y a bien ensuite une suite de transports collectifs? Ça veut dire qu'il faut tout redéployer. L'idée est géniale.
L'idée, c'est d'aller jusqu'à 20, 30 bornes, en fait, de ces grandes villes, en fait.
Oui, mais il peut aussi.
Vers du Lyon-Saint-Etienne, par exemple.
Il aurait dit, on prolonge les lignes de métro.
C'est dans les tuyaux pour un RER.
Et il aurait dit, on prolonge les lignes de RER parisiennes jusqu'à Lille, jusqu'à Rouen, jusqu'à Rennes. Voilà, pourquoi pas, tout ça est bienvenu. On sent vraiment l'opération de com pour donner un autre ton sur d'autres sujets, pour apaiser un peu le débat est un petit peu tendu. C'est mon idée. À part ça, je me réjouis que le président de la République se soucie du transport en commun des Marseillais et des Lyonnais, mais c'est pas forcément son rôle, voyez.
Alors justement, tiens, Philippe nous appelle de Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, bien sûr. Salut Philippe.
Oui, bonjour à tous. Oui, je vous appelle de Marseille. Moi, ce projet, comme certains disent, je pense que c'est beaucoup marketing et un effet d'annonce, parce que le temps que ça soit mis en place, je serai sûrement à la retraite, ayant déjà 49 ans.
Vous aurez le droit de prendre le RER à la retraite, hein, vous savez.
Oui,
vous aurez
oui.
Même une petite carte spéciale.
Il aura moins d'utilité parce qu'il n'ira pas travailler.
Voilà. Par contre, moi, j'y vois. Enfin, il y a plusieurs choses là-dessus. Déjà, par exemple, sur Marseille, il y a des arrondissements entiers qui sont même pas desservis ni par le métro ni par le tramway. Moi, je travaille à 50 km de là, sur une zone d'entreprise industrielle au Mille à Aix-en-Provence,
ouais.
Qui n'est pas du tout desservie. Si je devais prendre les transports en commun, grosso modo, j'ai calculé, il me faut 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi, si tout le monde est à l'heure.
Ce qui fait beaucoup. Et vous mettez combien de temps en voiture?
Et en voiture, ben, comme beaucoup de Marseillais, on prend la voiture parce que justement, on a des problèmes. Les transports en commun desservent mal la métropole ex-Marseille. Traverser Marseille, c'est 1h30 le matin, 1h30 le soir.
Voilà. Ouais, donc vous mettez quand même beaucoup de temps, Philippe. Voilà. Mais quelque part, c'est quand même un projet séduisant si on vous dit qu'il y aura des RER et qu'effectivement, vous pourrez rallier, on va dire, les environs de Marseille plus vite. On se dit que ça peut être qu'une bonne chose.
Ben alors, il y a plusieurs problèmes. Il y a le problème de desserte. Par exemple, la zone où je travaille, il y a énormément d'entreprises. Il n'y a pas de train qui passe actuellement, donc il faudra créer complètement une voie.
Ah ben l'idée c'est ça, c'est de créer des voies.
L'idée c'est ça. Et après, ça sera le problème de fréquence des trains. Parce que je vous prends l'exemple entre Aubagne et Marseille, ils ont créé une troisième voie il y a une dizaine d'années en arrière pour justement inciter les gens. Ils ont même créé des gares supplémentaires pour inciter les gens à prendre les transports en commun. Moi, j'ai voulu le prendre deux fois le soir. J'ai pas pu rentrer chez moi parce que il y avait un incident sur la ligne.
J'ai pu
prendre un train qui m'a amené jusqu'à Aubagne et revenir en voiture, récupérer ma voiture à la station où j'étais. Donc il y a quand même plein de problèmes. Il y a aussi le problème de coût parce que Macron, il est gentil. Il y a qu'à Faucon, je donne des sous partout. On a déjà plus de sous sur quoi que ce soit. Donc tout ça, faut savoir d'où comment ça va être financé aussi.
Je vous coupe, Philippe. On va tout de suite filer à Doha, au Qatar, retrouver Arnaud Souk pour ce match entre le Cameroun et la Serbie. But pour qui, Arnaud?
La Serbie qui fait le break dans cette rencontre au stade Aljanou. But de Mitrovic pour les Serbes, et les Serbes qui donc prennent un avantage. Voilà, qui commence à être conséquent dans cette rencontre puisqu'ils mènent désormais 3-1. Je vous rappelle que c'est Jean-Charles Castelletto qui avait ouvert la marque pour le Cameroun, mais donc les Serbes qui voient le score aggravé en leur faveur, et c'est mérité car ils dominent outrageusement cette rencontre. 3-1.
Le match Cameroun-Serbie est en ce moment en direct et en intégralité sur l'appli RMC avec la radio digitale RMC 100% Coupe du Monde.
Téléchargez l'appli RMC.
Allez, on reprend notre débat dans Estelle Midi sur cette idée d'Emmanuel Macron de créer des RER dans 10 grandes villes de France. Bonne ou mauvaise idée? Notre invité, c'est Flavien Novi, spécialiste des mobilités. Bonjour Flavien.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous dans Estelle Midi. Donc on parle de cette idée comme ça lancée par Emmanuel Macron qu'on n'attendait pas forcément sur ces RER lancés dans 10 grandes villes de France. Est-ce que pour vous c'est une bonne idée, Flavien Novi?
Sur le papier, si vous voulez, le rail c'est un mode de transport qui est décarboné. Et si on veut atteindre nos objectifs en matière de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, oui, il faut absolument décarboner le plus possible des transports. Donc c'est une bonne idée sur le papier. Après, la réalité, c'est que le RER, c'est un mode de transport de masse. On met beaucoup, beaucoup de gens et on peut transporter, en gros, hein, si on prend les exemples des transports parisiens, les RER parisiens, 50 000 personnes par heure. Donc la question, en fait, c'est de savoir si on a le potentiel dans les métropoles qui sont concernées, potentiellement concernées, en termes de densité de population. Parce que mettre du RER, faire 30 km de ligne de RER pour desservir des petites ou des moyennes villes.
Une ville à 30 km de Strasbourg, oui.
C'est beaucoup, beaucoup d'investissements pour finalement un taux de remplissage et un report modal.
Et oui.
Ça paraît aléatoire. Ça permet juste de rebondir très rapidement sur une question qui a été posée sur quels sont les modes de transport qu'utilisent les gens au quotidien. Quel est le déterminant principal pour savoir si je prends ma voiture ou le transport en commun?
Le temps.
C'est pas l'aspect économique qui prime, parce que si c'était ça, tout le monde laisserait sa voiture au garage. Ce qui compte, c'est le temps qu'on met pour aller du point A au point B, pour aller de son domicile au travail. Et donc, voilà, si la gare de RER dans une ville de province se situe à 20 minutes de route de mon logement, mais que pour aller au travail, je mets simplement 30 minutes, on fera pas le détour pour aller vers sa gare de RER. Donc la vraie question, c'est, y a-t-il le potentiel pour mettre un mode de transport de masse de ce type?
Est-ce que ça peut accentuer aussi cette idée de RER, la fracture entre justement la campagne et la ville? On sait qu'elle existe déjà, cette fracture. On l'a bien vu lorsqu'il y a eu la pénurie de carburant entre ceux qui avaient déjà des transports en commun et que ça n'affectait pas, et ceux qui avaient absolument besoin de leur voiture pour aller au travail. Est-ce que ce serait pas mieux quand même d'augmenter les transports dans les villes où il n'y en a pas, quoi?
Alors, l'Observatoire CTM, on avait intitulé une étude « La fracture automobile », où on montrait bien qu'il y avait deux Frances qui ne se comprennent plus. La France des zones périurbaines et rurales, pour qui la voiture est indispensable pour aller travailler, faire ses courses, emmener les enfants à l'école. Voilà, sans voiture, il n'y a pas de vie possible. Et puis la France des métropoles, qui a déjà quand même beaucoup de transports alternatifs, des transports en commun, du vélo, etc. Et cette France des métropoles, elle a des offres de services en commun qui, quelquefois, ne sont pas toujours ultra performant. Donc c'est vrai qu'il y a certainement mieux à faire. On parlait tout à l'heure, vos différents invités parlaient des TER, par exemple. Sur les TER, très clairement, il y a une offre qui existe, qui dessert déjà beaucoup, beaucoup de villes et qui mériterait certainement d'être améliorée. Donc je pense qu'on peut améliorer encore l'organisation des transports en commun dans notre pays, même si, il faut quand même le dire, quand on se compare par rapport aux autres pays européens, on a plutôt beaucoup de transports en commun et pour un coût usagé qui est plutôt faible. C'est-à-dire qu'on ne paye pas beaucoup par rapport à beaucoup de pays en Europe, en dehors des périodes de crise comme on a pu le voir par exemple en Allemagne ou en Espagne. Mais globalement, on paye assez peu pour son transport en commun en France.
Rémi, vous avez plein de messages, hein, en tout cas sur l'application RMC.
Exactement, sur l'application RMC, sur Direct Studio. J'ai Jacques par exemple qui nous écrit, au lieu de faire du marketing politique, améliorons déjà les installations existantes. Ça, c'est ce que disait tout à l'heure, ce qu'on disait tout à l'heure. Jacques, qui nous écrit, c'est bien joli ça, mais qui va payer et avec quel argent?
C'est nous.
C'est vrai que pour l'instant, on n'a pas parlé de budget. Enfin, en tout cas, Emmanuel Macron ne l'a pas évoqué. Et puis, il y a Chris qui nous dit bonjour. C'est tout à fait exact. Je pourrais prendre le TER pour aller au boulot et revenir le soir, ce qu'on disait aussi tout à l'heure. Mais les horaires ne sont pas du tout adaptés. Pourtant, j'ai des horaires classiques. Hein. Je commence à 8h le matin, en tout cas je pars à 8h. Je rentre le soir à 18h, j'habite en Bretagne. Et le TER, qui fonctionne correctement, ce serait bien pratique.
Non mais le TER en Bretagne, c'est Pékin Express. Hein. Enfin, je veux dire, t'es jamais fait arriver. C'est effrayant, quoi. Restez avec nous, Flavien Novi. On a Stéphane qui nous appelle du Pas-de-Calais, d'Hanoquin. Bonjour Stéphane.
Bonjour Estelle, comment ça va?
Bah bien, et vous?
Ça va.
Ouais, il y a le petit accent qui va bien, là.
Merci.
Stéphane, vous êtes routier, vous n'avez pas besoin de prendre le RER?
Non, mais moi j'ai mon fils qui va à la fac à Lille.
D'accord. Ah,
bon courage.
Hanoquin, ça se trouve entre Béthune et Lille. On a une gare à la Bassée.
Ouais.
Mon fils met 5 minutes en vélo pour aller à la gare de la Bassée.
Super.
C'est très bien. Mais s'il veut un TER pour être à la fac, il faut qu'il prenne le TER à 6h du matin.
Ouais.
Il arrive à la gare de Lille à 6h30.
Ah oui. Oui, alors que les cours doivent commencer à 10h, j'imagine.
Ça commence à 8h. Mais à 6h30, il y a la gare de Lille. Après, il y a 15 minutes de métro pour arriver à la fac. Et il est pendant presque 1h30 devant la fac à attendre. Parce que s'il prend le train à 7h, comme il faisait avant, une fois sur deux, les trains sont annulés.
Oui, c'est ça. Non, mais le problème, c'est ce que vous dites, en fait, Stéphane, et c'est ce qu'on dit depuis 10 minutes. C'est qu'en fait, avant de penser à faire des nouvelles lignes, autant améliorer celles qui sont là aujourd'hui et qui ne fonctionnent pas, en fait.
Bah oui, on a des TER normalement qui desservent bien. Et pour les retours le soir, en fait, il est encore plus embêté parce que après 18h, il n'y a plus de TER pour aller à la Bassée.
Mmh. Ah, bah c'est pratique.
Mmh. Donc,
comme les gens souvent arrêtent de bosser à 19, c'est bien.
Voilà. Dans les Hauts-de-France, c'est un exemple parmi d'autres. Tu parlais de la Bretagne. Ouais. En 2022, il y a eu 11 000 suppressions de TER. Mmh. C'est-à-dire que 11 000 trajets qui ont été.
Ah oui, d'accord, je comprends.
11 000 suppressions de trajets TER. Mmh.
Alors, ce qui est assez fou, c'est qu'on n'arrête pas de dire qu'on manque de chauffeurs de bus, de métro, de train. Et là, on veut créer des nouveaux trains avec quel chauffeur? J'imagine, enfin, quel conducteur, quoi.
C'est une problématique sociale qui va. Ça prend des proportions. Et maintenant, il y a même la SNCF commence aussi à manquer un petit peu de chauffeurs, enfin, de mécaniciens.
Conducteur.
C'est vrai.
Bah, évidemment, puisque tu pars plus en retraite à 55 ans, donc les gens ont moins envie. Hein,
Là, ça demanderait. Disons qu'il faut revaloriser aussi la profession. Voilà. Je ne pense pas qu'il soit maltraité, Jérôme me corrigera, mais il y a en tout cas une panne sur cette envie de transporter les citoyens vers. C'est curieux d'ailleurs.
Il y a un problème de personnel. Mais là où le président est quand même dans son rôle, c'est de prévoir à long terme.
Oui.
Parce que le général de Gaulle décide, on va foutre Roissy, de Gaulle, à Roissy, en pleine pampa. Les titres des journaux à l'époque, c'est-à-dire personne n'ira jamais au milieu de la Cambrousse pour aller prendre son avion. Maintenant, c'est construit jusqu'à Roissy. Quand Nicolas Sarkozy décide en 2007-2008 de lancer un projet pharaonique, qui est le métro du Grand Paris, Grand Paris Express, machin, etc. C'est à l'heure actuelle.
Tout le monde le sait bien, là. Voilà. Oui. Tout le monde trouvait ça formidable.
Mais il s'en est pris plein la tronche pendant 4 ans, en disant, mais ça se fera jamais, y compris par des gens sans doute comme moi, qui ont dit c'est trop loin, améliorons ce qui existe, etc. N'empêche qu'il a eu la vista de le faire. Sauf que c'est le successeur du successeur de son successeur qui va l'inaugurer. Donc c'est son rôle aussi de prévoir à long terme.
Moi, je pense qu'il l'a annoncé. Il n'a pas fait une grande allocution. Il l'a annoncé comme ça au détour d'un truc. Donc ça n'avait pas l'air d'être
une courte vidéo. C'est pour ça que je suis assez sceptique. Et les gens sur le terrain, ils disent mais moi j'ai pas le temps d'attendre 15 ans ou 20 ans. C'est là le rôle du Premier ministre plutôt de dire je gère le quotidien des Français. C'est ça, institutionnellement, ce serait son boulot. Les Français, ils s'en foutent. Enfin, les Français, les usagers. Ils s'en foutent du logo, TER, RER, tout ce que vous voulez.
Ils veulent
de la fréquence. Ce qu'on disait tout à l'heure, tous les deux, pour dire, mais oui, c'est très bien, il y a déjà des TER, mais qui en est un peu plus et qui ça circule un petit peu plus. Et à des heures où c'est utile, on commencerait déjà par ça. Vous savez que pour le RERB dont on parlait, il y a des rames nouvelles, celles qui existent ont plus de 40 ans. Hein. Il y a des rames nouvelles qui ont été commandées il y a plus de 6 ans. Elles arriveront dans 5 ans.
Oui.
Donc, bon courage pour ceux qui sont sur
où je trouve qu'il y a un peu une hypocrisie aussi de se positionner comme celui qui prévoit le long terme pour Emmanuel Macron, alors qu'on sait qu'un des gros problèmes du système actuel, des TER actuels, c'est que le système routier, les rails, ne sont pas entretenus. Donc, tout l'investissement qui doit être fait pour que ça fonctionne au quotidien, ça fait des années qu'il est laissé à l'abandon. Et donc, il y a un enjeu là, et puis encore une fois, toutes les propositions qu'il est en train de faire là, revaloriser le TER, créer des nouveaux RER, mettre de l'argent dans le train hors TGV, c'est des propositions que les 150 citoyens de la Convention, il y a 2 ans, en fait, elles n'ont pas été suivies des faits.
Eh ben, là,
ce qui vient d'être voté par le...
Il faut se réjouir, alors.
Bah, oui, réjouis-toi.
Mais je m'en réjouis. Si c'est fait, le problème d'Emmanuel Macron, ouais, c'est qu'il ça, parle, mais qu'il ne fait pas derrière.
Oui, mais là, là il a dit qu'il allait le faire. Donc, est-ce qu'on ne peut pas lui faire confiance?
S'il n'en parle pas, on est sûr que ça ne sera pas.
Je l'ai dit, hein. S'il le fait vraiment, je serai la première à applaudir. Alors, j'ai pris l'habitude de...
Une phrase. Un président de la République doit avoir des projets visionnaires d'État pour la nation. De Gaulle, c'était le Concorde, le TGV.
C'était le Cap d'Agde aussi, de Gaulle.
D'accord.
Un projet visionnaire pour l'État, c'est lui qui a décidé de faire le Cap d'Agde à cet endroit-là.
À un moment donné, on a droit ponctuellement.
Là,
ce sont des décisions de préfet de région. Ce qu'il est, finalement, c'est un préfet de région, le président de la République. C'est un bon préfet de région.
Alors, on vous a posé la question, en tout cas, sur le compte Twitter d'Estelle Midi, @EstelleMidi, des RER dans 10 grandes villes de France. Bonne idée ou mauvaise idée, Rémi?
Ça n'emballe pas les fous, comme je le dis parfois. C'est une bonne idée. Il y a une majorité, mais bon, 53% de ceux qui sont prononcés sur les réseaux sociaux estime que c'est une bonne idée.
Et on va remercier Flavien Novi qui a été notre invité sur ce débat dans un instant. On parle de la polémique du jour dans un village de Côte d'Or. Un maire accusé de pédopornographie, mais il refuse de démissionner. Est-ce que c'est scandaleux? On vous attend au 32-16. A tout de suite.
RMC, midi 14h.
Estelle Midi.